Ça donne l'énergie, Monica.
Énormément.
Ah, alors, ben justement, on a besoin d'énergie pour rendre les espaces publics accessibles, sécuritaires et attrayants pour la population qui est quand même vieillissante.
C'est ça. Alors, c'est un article qui a été rédigé par François Racine, qui est de l'UQAM, et qui a été publié dans la Conversation du 25 février dernier. Alors, pour être véritablement inclusif, les espaces extérieurs accessibles au public d'une ville doivent répondre aux besoins de l'ensemble de la population, quel que soit leur âge, leur capacité physique ou leurs conditions de mobilité. Même si de nombreuses villes ont adopté des politiques d'accessibilité universelle au cours des dernières années, il faut se demander si celles-ci ont réellement amélioré l'accessibilité et la qualité de l'expérience des citoyens. Les espaces publics peuvent être source de fatigue et de stress si certaines de leurs caractéristiques ne sont pas correctement pensées. Alors, pour mieux comprendre le degré d'accessibilité des espaces publics, plusieurs champs de recherche en design urbain, urbanisme et architecture offrent des outils précieux. Trois dimensions sont particulièrement pertinentes parce qu'elles concernent directement la manière dont l'environnement bâti répond aux besoins des personnes ayant des limitations motrices, visuelles ou cognitives. Ces trois dimensions, je vous les énumère, le confort, d'abord, deuxièmement, la lisibilité et troisièmement, la clarté géométrique. Ces dimensions permettent d'évaluer si un espace est vraiment pensé pour tous. Et on souligne pour tous.
Oui.
Alors voyons en quoi consiste la première dimension, soit celle du confort. Les études environnementalistes, pardon, s'intéressent à la façon dont les gens vivent et utilisent les espaces publics. Alors, selon Jan Gehl, est un architecte et urbaniste danois, un espace adéquat pour les piétons doit offrir protection, confort et attrait. La protection assure la sécurité, par exemple grâce à des trottoirs séparés de la circulation véhiculaire ou grâce à des passages piétons bien signalés. J'ajouterais, Denis Martin, irrespectés. C'est pas toujours le cas, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Ouais, tout à fait.
Deuxièmement, le confort facilite les déplacements. Les surfaces planes et continues, absence d'obstacles, les bancs, les rampes et les accès adaptés. Et finalement, le troisième élément, c'est l'attrait, qui repose sur la combinaison d'éléments physiques et sensoriels, comme la verdure, la lumière et la présence d'activités qui favorisent une expérience agréable pour les usagers. Ces critères bénéficient à tous, mais sont particulièrement essentiels pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Un espace agréable et confortable encourage indéniablement les gens à se déplacer davantage à pied et bien sûr à profiter pleinement de la ville, renforçant ainsi l'inclusion sociale et le bien-être. Le parcours piétonnier du parc Safari à Hemmingford, c'est un exemple de développement urbain touristique valorisant la dimension du confort. Les surfaces pavées planes et l'absence d'obstacles au sol, comme des marches irrégulières ou des pentes abruptes, assurent le confort et la fluidité des déplacements. Pour un usage agréable et sécurisé, il est essentiel d'assurer donc l'homogénéité des surfaces et la régularité des niveaux, ce qui facilite le passage des poussettes, des fauteuils roulants, ainsi que les déplacements des personnes ayant des difficultés de mobilité. La deuxième dimension, la lisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les études sur l'image de la ville se concentrent sur la manière, pardon, dont les gens perçoivent leur environnement et s'y orientent. Kevin Lynch, qui lui est urbaniste américain, qui a enseigné au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, et à Harvard, a profondément influencé le design urbain avec ses travaux sur la perception des villes. Ses recherches ont permis d'identifier cinq éléments qui aident les personnes à se repérer dans la ville. Premièrement, les voies, c'est-à-dire les rues, les trottoirs ou les sentiers le long desquels on se déplace. Le deuxième élément, c'est les limites. Par exemple, les murs, les rivières ou les voies ferrées qui délimitent un espace pouvant être difficile, voire impossible à franchir. Le troisième, c'est les quartiers reconnaissables par leur ambiance, leur fonction ou leur architecture homogène. Le quatrième, les nœuds. C'est ces lieux de passage ou de rencontre comme une place publique, un carrefour ou une gare. Et finalement, le cinquième élément, c'est les points de repère, soit des éléments visibles qui permettent de se situer, comme une tour, un clocher, une enseigne ou même un arbre distinctif. L'esplanade de la place des Maries peut servir à mettre en évidence la dimension de la lisibilité. La conception, organisée autour de marches intégrant une rampe clairement visible depuis le champ de vision du piéton, réduit la confusion et facilite la compréhension des liaisons entre les différents niveaux de l'esplanade. Les piétons peuvent anticiper la continuité de leur parcours, rendant la circulation plus rassurante et agréable. La lisibilité de cette organisation permet un accès pour tous à l'esplanade de la place Ville-Marie. Lorsque limites et repères sont clairement définis, la ville devient plus lisible et accueillante, notamment pour les personnes ayant des difficultés d'orientation ou de repérage. La lisibilité réduit l'anxiété au déplacement à pied dans des environnements complexes et renforce le sentiment de sécurité. La troisième dimension, c'est la clarté géométrique. Les études de la spatialité analysent la forme et la géométrie des espaces urbains pour comprendre comment leur organisation influence les déplacements et les comportements humains. Bill Hillier, architecte britannique et professeur à l'University College London, est connu pour son approche syntaxique, c'est-à-dire une méthode d'analyse des espaces urbains et architecturaux. Ses travaux montrent que les gens se déplacent naturellement le long d'axes clairs et directs. Certaines maladies cognitives, comme la maladie d'Alzheimer ou le trouble cognitif léger lié à l'âge, peuvent affecter mémoire, attention et orientation. Une configuration urbaine géométriquement claire facilite l'orientation de ces personnes et leur permet de se représenter mentalement la figure spatiale de l'espace dans lequel elles déambulent. Un autre élément important est l'effet d'enveloppe spatiale déterminé par la continuité des façades, des clôtures ou des alignements de bâtiments qui créent un sentiment d'encadrement et de sécurité. Dans le vieux port, par exemple, l'espace est fréquemment cadré de manière claire. Par exemple, sur la rue Saint-Paul, les façades consécutives des bâtiments définissent fortement l'espace, créant une orientation naturelle qui évolue au fil du déplacement. La présence d'une bordure de trottoir basse renforce encore la clarté spatiale et la simplicité du parcours. Alors, lorsqu'on conçoit des espaces publics de qualité dès le départ, ou lorsqu'on revoit les espaces publics, on peut penser en effet à l'esplanade de la place Ville-Marie qui a été complètement refaite, il est possible de répondre aux besoins liés à la motricité, à la vision et à la cognition sans concevoir l'espace pour un seul type d'usager. Un design réfléchi et inclusif rend donc la ville plus confortable, lisible et sécurisée pour tous, en particulier pour une population vieillissante et, ajoutons, pour toute population confrontée à des défis de mobilité. On invite donc nos municipalités et nos villes à bien repenser les espaces publics, les espaces de déplacement.
Oui, c'est un défi.
Tout un défi.
On va aller rapidement en musique, puis on revient pour faire des courtes, brèves infos avec toi.